Très bien. Nous allons écouter la parole de Dieu maintenant. C'est le moment le plus important pour nous dans le culte. Écouter Dieu. Voilà. Il nous a entendus. Nous avons prié, nous avons chanté. Et maintenant, nous, on va l'écouter. Alors, je vais prier pour cette prédication. Seigneur notre Dieu, nous te prions, nous te remercions pour ta parole. Nous voulons être soumis à ta parole, Seigneur. Aide-nous à l'aimer, Seigneur, de plus en plus, Seigneur. Car c'est d'elle que sortent toutes les sources de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de voir une série de prédications sur la première épître aux Corinthiens. Alors c'est très bien de faire cela, parce que ça permet de toucher à tous les sujets. Vous savez, nous les prédicateurs, parfois, on nous demande de prêcher, on est souvent autour d'un sujet qu'on aime bien. Hein? On a des sujets qu'on aime bien, on choisit comme cela. Et faire de cette façon, eh bien je suis obligé, véritablement, de suivre et de parler de tout. J'en parlais ce matin avec ma femme, je lui disais qu'en préparant la prédication, le message, je suis tombé sur un sujet, je me suis dit, mais je ne vais pas parler de ça, tout le monde sait que c'est évident, c'est là, c'est écrit. Hein? Ben non, elle m'a dit, oui, mais tout le monde dans l'église n'est pas forcément au même niveau, il y a parfois des jeunes chrétiens, et ainsi de suite. Et c'est vrai, hein? Voilà. Il faut vraiment parler de tout ce qui concerne la parole de Dieu. Alors souvenez-vous, le premier message nous disait que Dieu nous appelle à vivre notre appel sérieusement. Hein, c'était ça. Il nous appelle à vivre notre appel sérieusement parce que notre appel vient de lui. C'est un appel divin. Hein, ce n'est pas nous qui avons décidé de servir Dieu, c'est lui qui nous appelle. Ensuite, parce que notre identité est sainte, voilà, c'est-à-dire que Dieu nous a sanctifiés, il nous a mis à part. On ne s'est pas mis à part nous-mêmes, c'est Dieu qui nous met à part, hein, pour lui. Parce que Dieu nous équipe. Quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne les moyens aussi de remplir ce ministère. C'est aussi comme cela qu'on fait pour savoir si réellement Dieu nous appelle ou pas. Hein, parce que parfois on peut se dire, tiens, Dieu m'appelle à faire cela, et puis on le décide nous-mêmes. Mais est-ce que nous avons l'aval de Dieu? Alors, l'une des façons de le savoir, c'est que Dieu nous équipe. Il nous équipe, il nous donne les moyens. Et ensuite, parce que notre espérance est certaine. Oui, hein, ce que Dieu a commencé en nous, c'est ce que notre frère, alors ce matin, je ne sais pas, mais régulièrement le frère, quand il enseigne, il introduit ma prédication. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu travaille, hein, agit. Hein, c'est extraordinaire. Eh bien, parce que, je disais donc que notre espérance est certaine, parce que Dieu, ce qu'il a commencé en nous, il l'amène jusqu'au bout. Vous voyez que, comme nous l'a rappelé notre frère, Dieu, ce qu'il commence, il l'amène jusqu'au bout. On n'a pas à s'inquiéter. Et quand on lit la parole de Dieu, moi, c'est ce que je ressens, j'ai toujours cette impression que Dieu fait tout pour qu'on puisse vivre tranquillement, sans s'inquiéter. Parce que nous sommes comme ça, on s'inquiète. Hein, bon, je le dis le premier, hein. Moi, dès que ma femme et ma fille sont dehors, je me mets à prier. Je prie. Voilà. Et elles le savent parce que quand elles rentrent à la maison, elles se moquent de moi parce que voilà, je suis quasiment en déliquescence. Hein, voilà. Et je dois aussi apprendre à faire confiance au Seigneur à ce niveau-là. Voilà. Avec tout ce qu'on entend, vous savez. Voilà. Et maintenant que je vous connais de plus en plus et de mieux en mieux, ben voilà, vous êtes venus à rajouter à ce problème. Je vais m'inquiéter pour tout le monde maintenant. Vous voyez. Et ça a commencé d'ailleurs. Alors, au lieu de m'inquiéter, je prie. Voilà. Et donc, nous allons voir la deuxième partie. Nous avons vu donc le chapitre 1, versets 1 à 9, concernant l'appel de Dieu, voilà, de prendre au sérieux l'appel de Dieu. Nous sommes appelés. Et nous allons voir aujourd'hui les versets 10 à 17 que je vais vous lire. 10 à 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 17. Merveilleuse parole de Dieu. Verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. » Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à cela. « À tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. » Parfaitement. Ce n'est pas unis comme ça. Non, parfaitement. Vous voyez la parole de Dieu. « Dans un même esprit et dans un même sentiment. » Verset 11. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, et ça c'est honteux, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. » Imaginez un instant qu'on vous dit, en votre réputation à l'extérieur, hein, à Marseille, là-bas, on parle de l'église d'Argenteuil. Vous imaginez un peu la honte? Et c'est même pas à Marseille, c'est en Côte d'Ivoire, 6000 kilomètres, et aux Antilles. Et nous, on ne veut pas de ça. Nous, on veut que le Seigneur soit fier de nous. Voyez? Eh bien, les Corinthiens et je parle souvent, je pense à eux, je me dis, mais vous rendez compte des Corinthiens, ça fait 2000 ans qu'on parle mal d'eux. Hein? Vous rendez compte, c'est honteux, hein? C'est resté dans le témoignage. Tout le monde sait que l'église de Corinthe était une église qui n'était pas formidable. Verset 12. Oui, donc, comme il disait, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Alors là, les derniers, hein, et moi de Christ. On va parler de ceux-là. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Merveilleuse question. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Et il explique pourquoi. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. Bah oui. Et alors, d'autres diraient encore, en train de se vanter, en se disant, oui, moi j'ai été baptisé par Paul. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. On aime bien ça. Hein? Quand il y a quelqu'un, un pasteur qui est très connu dans le monde, j'ai été baptisé par lui. Et puis, vous voyez comment on est. Hein? C'est ce que Paul est en train de dire ici. Donc il dit, donc au verset 15, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Les frères et les sœurs, vous savez, il y a des péchés qui sont évidents. Quand on parle d'adultère, n'est-ce pas? Quand on parle de fornication, là tout de suite on est, vous voyez, hein, et c'est normal. Le vol, c'est évident, c'est un péché. Hein. Le mensonge finit par se découvrir. La violence fait du bruit et se remarque. L'erreur doctrinale aussi se remarque. Mais il existe un péché beaucoup plus discret. Et là, je demande votre attention, frères et sœurs. Il existe un péché beaucoup plus discret. Un péché qui ne fait pas de bruit. Un péché qui ne choque pas au premier regard. Un péché qui s'installe doucement. Doucement. Depuis l'âge de 15 ans, je vous assure que j'ai fait beaucoup d'églises. Hein. Et je sais de quoi je parle. Il s'agit du péché de la division. La division, ça, c'est l'arme fatale de Satan. Notre frère en parlait encore ce matin. S'il peut mettre la zizanie parmi nous, il le fait sans hésiter. Et ça commence comment? Ça commence avec « moi, je préfère lui ». Moi, je suis plutôt du côté de celui-ci. Et ensuite vient la comparaison, puis la critique, puis les petites remarques. Et ensuite, les discussions en coulisses, ou au téléphone d'ailleurs. Ensuite, des groupes se forment. Les clans. Qu'est-ce que l'être humain aime les clans? Le clan des Africains. Le clan des Antillais. On n'a pas d'Indiens ici. Sinon, j'ai le clan des Indiens. Hein? On aime bien ça. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le Seigneur déteste ça. Il n'est pas mort pour ça. Hein? C'est parce qu'on était dans cet état qu'il est mort pour nous unir. C'est ça l'objectif de Dieu. Se diviser est une horreur pour Dieu. Et donc, un jour, on se rend compte que les choses ont changé, que dans l'Église, il n'y a plus de joie. Ben oui, les divisions, ben, ça génère ça. Il n'y a plus de joie. La simplicité habituelle, quand on se voit, on se sourit, qui est normale et naturelle, tout d'un coup, ce n'est plus tout à fait pareil. Il y a encore des gens qui prétendent marcher avec Dieu et qui ne parlent pas à leur sœur ou à leur frère. Et ils sont à l'aise. Ils viennent à l'Église, ils même participent au repas. On ne se parle plus, ça commence par on se parle moins, on va dire. On ne se parle plus, on se méfie davantage les uns des autres, Alors qu'au préalable, on était des amis. Hein. Alors qu'avant, on était proches. La division est dangereuse. Elle détruit sans faire du bruit. Elle affaiblit l'Église et surtout son témoignage. Si nous sommes divisés, on ne peut pas l'évangéliser. Parce qu'il n'est pas possible d'amener quelqu'un dans un endroit où les gens sont divisés. À ce moment-là, on fait venir quelqu'un, on lui parle de Christ, on lui dit c'est formidable, et il voit des gens qui sont divisés. On doit être unis pour pouvoir ensuite aller chercher nos amis, nos frères dehors. L'église de Corinthe était dans cet état-là. Et comme la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction, on va se baser sur la parole de Dieu pour éviter les mêmes erreurs. C'est ça l'objectif. L'église de Corinthe avait, rappelez-vous, tous les dons. Ils avaient la connaissance de la vérité. Mais c'est une église qui était divisée. Alors, l'apôtre Paul, bien sûr inspiré du Saint-Esprit, va traiter ce problème de la division en leur disant « Attention, il y a un grand problème parmi vous, un gros problème. Vous êtes divisés, vous êtes en train d'affaiblir votre témoignage et donc le témoignage de Jésus-Christ. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Vous êtes en train de pousser les gens à se détourner de la croix. Et là, c'est grave. La question est pour nous ce matin, est-ce que nous vivons sérieusement notre appel en protégeant notre unité? Parce que Dieu nous appelle à vivre sérieusement notre unité, c'est-à-dire à prendre au sérieux notre unité. Nous devons être unis. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une option. On n'a pas le choix. Alors, ce matin, frères et sœurs, vivons sérieusement notre appel à l'unité. Vous voyez, dimanche dernier, c'était notre appel tout court, et là, ça se précise. Notre appel à l'unité. Prenons au sérieux cette unité. Alors, ce matin, nous allons voir comment on peut arriver à vivre cette unité. Comment vivre sérieusement cet appel à l'unité? Et il semble que l'apôtre Paul nous donne ici quatre pistes, quatre piliers solides. Le premier pilier pour vivre l'unité sérieusement, eh bien, c'est le pilier, et là, depuis ce matin, ça a commencé. Hein. Notre frère a commencé à en parler. C'est l'unité, pardon, c'est le pilier de l'harmonie dans la vérité. Le pilier de l'harmonie dans la vérité. Frères et sœurs, il n'y a pas d'unité hors de la vérité. C'est faux. Pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui veulent, je ne sais pas, être avec quelqu'un pour, même pour le travail, le business, moi je l'ai vécu ça. Il faut que les choses se fassent dans la vérité. N'entrez pas dans quelque chose où c'est faux. Parce que tôt ou tard, ça vous rattrape. Nous allons être unis, mais au travers de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous unit. C'est-à-dire qu'on doit se mettre d'accord sur ce que nous on appelle ou ce que nous considérons comme étant la vérité. Si on n'est pas d'accord sur ce que nous appelons la vérité, alors c'est la cacophonie, ça va être le bazar, hein. Il n'y a pas d'unité sans la vérité, sans la parole de Dieu. Le verset 10 dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Paul utilise ici un mot qui est très fort quand il dit parfaitement unis. Alors, c'est un mot qui est un terme médical, qui exprime l'idée de, écoutez bien, remettre un os déboîté en place. Alors, vous imaginez un peu l'image. C'est un corps où l'os a été déboîté. Et Paul dit, remettez-le en place. Mais quand on remet un os en place, ça fait très mal. Vous avez déjà vécu ça? Ça fait extrêmement mal. Mais on est obligé de passer par là, par cette douleur, pour remettre l'os en place. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit, frères et sœurs, s'aligner doctrinalement. On doit tous être d'accord sur l'enseignement. Ensuite, Paul écrit à tenir un même langage. Voyez? C'est-à-dire que on doit dire la même chose parce que nous croyons la même chose. Qu'on ne doit pas faire de compromis pour être ami avec quelqu'un. C'est pour cela que nous rejetons l'œcuménisme. Parce qu'on sait que cette sorte d'amitié ne marche pas. Vous savez, j'ai toujours peur de parler, parce que j'ai vécu tellement de choses que quand j'en parle, j'ai peur que ceux qui ont vécu cela avec moi se rendent compte et se disent « Mais Jean-Luc, tu nous as critiqués. » C'est compliqué. Voilà. Bon, je pense que si j'ai vécu ces choses, c'est aussi pour les partager. Alors, j'ai eu un frère comme ça, depuis mon adolescence, qui était dans l'église et qui n'avait pas toujours les mêmes convictions doctrinales avec l'église. Je vous assure, depuis mon adolescence, jusqu'aujourd'hui, j'ai 55 ans, il y a toujours ce problème entre eux. Et l'unité n'est jamais bonne parce qu'il y a ce problème. Et je me suis rendu compte à quel point c'est si important d'être unis dans la vérité. C'est très important. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu remettre en place cet os chez nous qui a été déboîté? C'est-à-dire nos opinions, nos idées que nous élevons au-dessus de la parole de Dieu. C'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Si on ne dit pas ça, on va avoir des problèmes. Parce que si nous sommes unis et si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes soumis à celui qui nous a donné sa parole. Et donc, il faut que pour rester unis, on suive cette parole. C'est logique, hein? Mais si chacun a une compréhension différente des doctrines, des enseignements bibliques, on va avoir des problèmes. Et qu'est-ce que nous avons en commun au niveau de l'enseignement et des doctrines? Ça s'appelle comment? La confession de foi. La confession de foi, ce sont les enseignements sur lesquels tout le monde se retrouve. C'est pour cela que lorsque vous devenez membre ou vous souhaitez devenir membre, on vous fait signer la confession de foi. C'est pour éviter des problèmes plus tard. C'est pour vous dire, tu intègres cette église, voici ce que croit cette église. Est-ce que tu es d'accord? Et si tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. Et on le comprend tout à fait. Mais si tu signes, il va falloir que tu respectes ça. L'objectif, ce n'est pas parce qu'on veut imposer quoi que ce soit. L'objectif, c'est pour que nous puissions être unis. C'est à ça que ça sert. C'est pour cela que cette église s'appelle Église biblique baptiste. Ce n'est pas juste parce qu'on veut se chamailler avec les gens. C'est pour que quand quelqu'un cherche une église, il se dise « Ah, il y a une église baptiste, ce sont mes convictions, je vais y aller. » « Ah, c'est une église pentecôtiste, ah, ce n'est pas ma conviction, j'y vais pas. » C'est juste ça. Donc, il faut que nous soyons unis dans ce que nous croyons. Parce que si on n'est pas unis dans ce que nous croyons, on ne sera jamais unis, ce n'est pas possible. Ce sera du mensonge. On ne dit pas qu'on est meilleur que les autres, on dit qu'il faut être unis sur ce que nous croyons ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ce que je crois qui a une conséquence dans ma vie. J'agis par rapport à ce que je crois. Par exemple, chez nous ici, lorsque quelqu'un prie à haute voix, une autre personne ne prie pas à haute voix. On ne fait pas ça chez nous. Donc, quand on vient ici, on ne le fait pas. Moi, j'étais dans les églises où on le fait. Mais ce sont eux qui le font, je vais parler là-bas. Ouais, pourquoi on fait ça? Ils ont dit, mais il est fou, lui. Je l'ai fait, hein. Quand j'étais jeune, j'étais tellement curieux, parce que j'ai appris beaucoup de choses, et je voulais aller vérifier. Alors on me disait, oui, dans telle église, ça se passe quand c'est bien. Ah bon? Oh, j'y vais alors, je vais aller voir. Et j'ai vécu ça. Tout le monde priait ensemble en même temps. J'ai dit, mais c'est parfaitement contradictoire avec la parole de Dieu. Pourquoi ils font ça? 1 Corinthiens chapitre 14, versets 31 à 33 dit, hein, je vais vous le lire, hein, 14, 31 et 33, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle. Bon, on imagine bien qu'il faut aussi prier à tour de rôle. Pourquoi? Parce que comment on peut entendre et dire amen à ce qui est dit? Parce que chacun doit écouter. C'est pour cela que le culte, ce n'est pas un moment passif. Hein. Tout le monde est actif dans le culte. Quand quelqu'un prie, on écoute. On dit, ah oui, ça c'est cohérent, c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. C'est pour dire Amen, parce qu'il faut dire Amen. Et quand on n'est pas d'accord, on ne dit pas Amen. Bon, c'est peut-être parfois quand je prie, imaginez, vous priez, personne ne dit Amen, vous dites, oula, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Mais ça sert à ça, parce que tout le monde est actif. C'est un corps. Nous ne croyons pas qu'on puisse baptiser quelqu'un avec des gouttes d'eau sur la tête. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est par immersion, ce mot veut dire cela, on plonge quelqu'un dans l'eau. D'ailleurs, l'image, elle est évidente. C'est mourir avec Christ pour renaître avec Christ. Mais quand on est enterré là, c'est complètement, vous avez déjà vu les cimetières avec des pieds de cadavres dehors? Ils sont complètement enterrés quand même. Mais c'est ça l'image. Donc, on est mort avec Christ et on est ressuscité avec Christ. L'image, elle est claire, n'est-ce pas? Donc, nous ne l'acceptons pas, nous ne pratiquons pas ces choses-là. Nos cultes sont sobres. Nous ne sommes pas pour l'ambiance. La seule ambiance que nous acceptons, c'est l'ambiance de l'Esprit de Dieu. Et c'est dans l'ordre, parce que Dieu est saint. C'est en cela que l'Ancien Testament est instructif. Regardez comment les choses se passent dans le tabernacle. Chacun a sa place, chaque famille a ceci, chaque tribu cela. Et Dieu est comme ça. C'est un Dieu d'ordre. Et c'est parce que nous croyons cela que nous faisons attention aussi à nos cultes. Chez nous, les gens ne tombent pas par terre en transe. On ne fait pas ça. Vous voyez? Alors, je ne vais pas être là ce matin à critiquer les autres. L'idée, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous devons être vraiment attachés à la parole de Dieu, être unis sur ce que nous croyons. Et c'est notre confession de foi qui nous l'indique. Alors, si vous avez besoin de discuter de certains sujets dans la confession de foi, je suis à votre disposition. On va en parler. J'aime bien discuter de la parole de Dieu. N'hésitez pas, appelez-moi, écrivez-moi, on va en parler. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15 dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant, et là c'est important, le verset 15, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, bien sûr, Christ. » La vérité dans l'amour, et c'est là où on commence à être de plus en plus précis. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on est attaché à la parole de Dieu qu'il faut le dire, faut la dire avec dureté. La vérité, elle se dit dans l'amour. Parce que si tu ne dis pas la vérité ou l'enseignement biblique dans l'amour, c'est que tu n'as pas compris l'enseignement. Puisque l'enseignement en question te dit de dire cet enseignement dans l'amour. Cette vérité dans l'amour. L'amour et la vérité vont de pair. Hein? Parfois, alors pour extrapoler un petit peu, parfois on se donne l'autorisation d'être dur avec quelqu'un parce qu'on dit la vérité. Comme je dis la vérité, donc je suis dur. Non, plus tu dois être pointu dans la vérité et plus tu dois être encore plus doux pour que ça passe mieux. C'est ça la logique. Hein? Alors je prends toujours l'image du comprimé. Moi j'ai du mal à avaler les comprimés. J'ai eu ce problème depuis tout petit et même en tant qu'adulte, j'ai encore des problèmes avec ça. Hein, donc, pour moi, il faut que je me concentre pour avaler un comprimé. Ça passe difficile. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand vous regardez la forme d'un comprimé, vous voyez bien que la forme est faite pour que ça puisse passer facilement. Imaginez-vous un comprimé avec des pointes. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu, c'est ça. La vérité se dit dans la douceur. L'unité sans vérité est fausse. On est d'accord. Mais la vérité sans amour détruit. Attention, hein. Donc, nous sommes unis sur la base de notre confession de foi et donc de nos pratiques. Si quelqu'un croit autre chose, c'est lui qui va semer la division parce qu'on est tous d'accord qu'on a une confession de foi qu'on va respecter. Maintenant, attention, et c'est là où j'aime le Seigneur. La confession de foi est là et puis Dieu nous laisse une liberté de croire certaines choses. Il nous laisse une espèce d'espace comme cela, tant que ce que nous croyons ne va pas en contre des vérités fondamentales. Dieu nous laisse un espace. Donc, et c'est pour ça que Paul dit, ne discutez pas les opinions. On a le droit d'avoir des opinions. Voilà. Vous voyez comment c'est formidable? C'est ça la liberté. Hein? Il y a la vérité et puis il y a l'espace que Dieu nous laisse. N'est-ce pas? Et si on faisait la même chose avec nos enfants? Et si on faisait la même chose avec nos familles, nos amis? Hein? Ils ont le droit d'avoir des opinions, n'est-ce pas? La vérité dans l'amour produit toujours la véritable unité en Christ. Donc, reposons-nous sur le pilier de l'harmonie dans la vérité. Soyons unis sur la même compréhension des Écritures. Parlons un même langage. Que quelqu'un ne vienne pas ici et qu'il y a un membre de l'Église qui lui dit quelque chose et puis un autre lui dise autre chose. C'est pas terrible. Hein. Soyons unis dans la compréhension des Écritures. Et être unis sur les Écritures, c'est aussi être aligné sur le Seigneur Jésus, puisqu'il est la vérité, il est la parole de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas alignés sur le Seigneur Jésus, si nous ne sommes pas alignés sur les mêmes enseignements, vous savez ce qu'on aura tendance à faire ? On aura tendance, comme les Corinthiens, à suivre des hommes. C'est le piège dans lequel est tombé les Corinthiens. Deuxième pilier de l'unité, c'est le pilier de la suprématie du Seigneur Jésus sur ses serviteurs. Alors moi, ce point, il a été difficile pour moi. Et vous savez pourquoi ? J'ai commencé à le dire, c'est le point dont je parlais à ma femme ce matin. Parce que c'est tellement évident que je me suis dit, mais je ne vais pas dire ça à l'Église, que Jésus-Christ est supérieur à ses serviteurs. Je ne vais pas dire ça. Il me dit, mais Jean-Louis, c'est ce que tu appelles l'Institut. Tout le monde est au courant de ça. Et pourtant, vous savez le piège ? On le croit tous, mais dans la pratique, on l'oublie. C'est-à-dire que parfois, on attribue à des humains, à des serviteurs de Dieu, ce qui va à Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul et notre seul chef. Il faut placer le Seigneur Jésus-Christ toujours au-dessus de ses serviteurs. Le verset 11 à 12 dit « Car, mes frères, j'ai été informé à votre sujet qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Et moi, de Céphas. » Et puis alors, c'est qu'on a vraiment la classe. « Moi, je suis de Christ. » Ah là, ils sont formidables ceux-là, hein ? Ils sont de Christ. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dénoncer ici ? Eh bien, des disputes. Des disputes de quoi ? Eh bien, il s'agit des Corinthiens qui ont créé des fan clubs. Il y a des fan clubs. C'est Paul ? Ok, moi je suis de Paul. Si Paul prêche, je viendrai. Mais si c'est Apollos, non. Parce qu'Apollos, je le trouve un peu trop... Voilà, vous voyez ? C'est un peu ça. Les êtres humains aiment faire des clans. Hein, c'est un petit peu comme une équipe de foot, hein, une équipe de sport, où les joueurs vont refuser de se faire des passes parce qu'ils n'aiment pas le style de l'entraîneur adjoint. Bon, pour ceux qui font un peu de sport, ils doivent se dire, c'est complètement aberrant. Hein, voilà. Alors que tous portent le même maillot. Ça n'a pas de sens. Les êtres humains aiment faire des clans. Alors qu'ici, il s'agit de deux serviteurs qui ont un style différent. Apollos, réputé être charismatique. Quand Apollos parle, oh là là, c'est pas Jean-Louis là, hein. Quand Apollos parle, on l'écoute. Hein. Il était très instruit, vous voyez. Il avait du charisme, vous voyez. Cultivé. Il avait un style raffiné, Apollos. L'apôtre Paul, lui, c'était quoi son style ? Ah, mais il n'avait pas le temps, lui, il allait droit au but. Hein. Bon, il y a des gens qui n'aimaient pas trop ça. Il était trop direct. Voilà. Hein. Il était simple. Voilà. Et il ne supportait pas d'utiliser les techniques humaines, les philosophies humaines pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Il n'aimait pas ça. Donc, il y a des gens qui ne le suivaient pas. Et puis, il y avait aussi Céphas, c'est Pierre. Lui, il était plutôt le juif, hein, vous savez, le chrétien d'origine juive. Les autres, enfin, Paul aussi. Hein. Sauf que lui, il avait ce côté un peu, pas nationaliste quand même. Mais bon, vous vous rappelez un peu quand Dieu l'a envoyé vers Corneille, hein. Voilà, ce côté un peu, je suis juif quand même, voilà, il ne faut pas l'oublier. Bon, voilà, et donc quand il a enseigné, il avait ce côté-là, donc les gens pouvaient le suivre pour ça. Le véritable problème dans cette église, c'était juste une question de préférence de style. Le style, quoi, voilà. Or, ça crée des divisions. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas unis sur la parole en réalité, mais sur ce type de considération. L'unité se fait par rapport aux Écritures, par rapport aux enseignements. Il mettait de l'importance dans des choses humaines, voyez. L'apôtre Paul leur rappelle que c'est le message lui-même qui est important, ce n'est pas les personnalités. Quand Dieu appelle quelqu'un à prêcher sa parole, il l'utilise avec sa personnalité. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de personnes différentes et que chacun sera touché par un style. Mais ce n'est pas ça qui fait l'Évangile, c'est le message. C'est ce que Paul est en train de rappeler. Hein? C'est le message. Quand j'étais jeune étudiant, on avait nous aussi nos prédicateurs préférés. Hein? Qui a connu Samuel Boada? Voilà. Oh là là, Samuel Boada. Vous savez de quoi je parle, hein, les frères? Oh là là, avec son accent là, du midi, quand il prêchait comme ça, on était tous là. Hein? Voilà. Bon, on peut comprendre cela. Ensuite, moi j'avais aussi Tim Nikeboker. Hein? Ah, Tim, c'était mes professeurs, tous ceux, voilà. Donc, quand ils venaient à l'institut, ils enseignaient et ils prêchaient aussi pendant la récré, ce qu'on nous attendait, c'est même de notre heure, voilà. Et donc, on attendait cela avec impatience, voyez. Et je pensais à cela. Donc, humainement, je comprends. Mais ce qui n'est pas bon, c'est quand le style devient plus important que l'enseignement. C'est pas normal, ça. C'est dangereux, d'ailleurs. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Imaginez. Comme Dieu n'a pas comme nous, il n'est pas comme nous, il n'a pas la même considération que nous. Lui, il n'a pas de problème de style. Hein. Imaginez, vous êtes en train de prier depuis des années sur un sujet et que vous n'avez pas de réponse depuis des années. Vous attendez la réponse de Dieu pendant 10 ans. Et Dieu dit, je vais apporter la réponse de ce frère-là, du chrétien, au travers de tel prédicateur. Mais il se trouve que c'est le prédicateur que vous n'aimez pas. Parce que lui, Dieu ne considère pas les choses comme nous. Hein. Lui, il a des serviteurs, il leur donne la parole. Hein. Voilà. Eh bien, vous allez être là, ou bien vous ne serez pas là, et vous aurez tout perdu. C'est dangereux. Et puis, il y a le groupe de ceux qui sont les plus spirituels. Moi, je suis de Christ. Vous avez déjà rencontré des frères comme ça, hein? Moi, je suis de Christ. Oh, moi, je suis de Christ. Hein. Moi, je l'ai rencontré. Hein. Ils ne sont pas de Christ du tout. C'est faux, hein? Vous savez leur problème? Ils ne supportent pas être soumis à l'Église. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je suis de Christ, je n'ai pas besoin de l'Église, je n'ai même pas besoin de suivre un pasteur, enfin, suivre un pasteur, d'être soumis à l'autorité de l'Église. Je ne veux pas être membre. Je suis chrétien, je suis dans l'Église de Christ. Ils ne sont pas membres. Et je vous assure, vous les observez, ce sont de véritables rebelles. Et ils se servent juste de « moi je suis le Christ » comme prétexte pour ne pas être suivre des instructions du Seigneur Jésus. En fait, c'est un orgueil, c'est de l'orgueil spirituel déguisé. L'apôtre Paul dit « non, arrêtez de faire cela ». Vous pouvez encourager les pasteurs, et faites-le. Hein. Vous savez pourquoi c'est important l'encouragement? Pas seulement pour les pasteurs, hein, y compris entre vous. Parce que quand on encourage quelqu'un, ce n'est pas le flatter. Hein. Quand on l'encourage, c'est de lui dire que ce que tu fais, c'est bon. Et lui, il va persévérer. C'est à ça que ça sert, l'encouragement. Je sais qu'il y a des pasteurs qui ne supportent pas ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, même là récemment, il y a des pasteurs à qui vous dites « merci pour la prédication ». Il ne veut pas entendre ça. Même ça, c'est l'orgueil pour moi. Bah, tu dis merci tout simplement, gloire à Dieu, puis c'est fini, voilà. C'est un encouragement parce que la parole de Dieu nous encourage à encourager. Donc, refuser un encouragement, mais c'est de bloquer quelqu'un et de l'empêcher de faire ce que Dieu lui dit de faire, c'est-à-dire encourager. Encourager, c'est de dire ce que tu fais, c'est bien. Quand c'est bien. Quand c'est pas bien, il ne faut pas dire que c'est bien. Voilà. Donc, mettre un serviteur de Dieu au-dessus du Seigneur est un véritable suicide spirituel. Mais il ne faut pas non plus l'accabler et le dénigrer ou le rabaisser. Ça ne sert à rien. Voilà. Honorons nos pasteurs, mais ne les transformons pas en idoles. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Donc l'apôtre Paul utilise ici une question choc pour ramener maintenant à l'essentiel de notre foi. Il dit au verset 13, regardez, « Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous ?» Waouh. Ou est-ce au nom du Paul que vous avez été baptisé? Ça paraît évident comme cela. J'ai dit ce point, il m'a vraiment embêté. Je me suis dit, mais tout le monde sait ça. Hein. Mais je crois qu'il faut quand même en parler. Le troisième pilier de l'unité est donc le pilier de notre identité à la croix. Et dans quelques minutes, nous allons passer à la table du Seigneur et justement commémorer ce que le Seigneur a fait pour nous. Christ est-il divisé? Le mot divisé ici signifie être déchiré en morceaux. C'est-à-dire que nous, en français, quand on le traduit, ça paraît rien comme cela. Mais pour ceux qui comprennent bien cette langue, Le mot est choquant. Est-ce que Christ est déchiré? Vous voyez un peu le mot qu'il a utilisé. Il dit, ce que vous faites est très grave, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez découpé Christ? Et puis, c'est vraiment l'idée de la hache. Hein. Quand vous faites ça, vos divisions, c'est ce que cela implique. Il dit, personne n'est mort à la croix. C'est Christ seul qui est mort pour nous. Arrêtez de faire ce que vous faites. C'est dangereux. Si un pompier vous sauve d'un incendie, j'imagine qu'on sera tous reconnaissants à cette personne. Mais de là à prendre le nom de famille de cette personne, on ne peut pas les reconnaître en point de vue, je renie ma famille, je prends ton nom. Ça n'a pas de sens. On est reconnaissant. Le pompier, c'est le serviteur de Dieu. Dans beaucoup de milieux, j'ai vu des choses incroyables. J'ai même vu un soi-disant pasteur qui ne touche pas le sol. Ses pieds ne touchent pas le sol. Et donc, pour se déplacer dans l'église, ou même de sa voiture à l'église, vous savez ce qui se passe? Les gens se mettent à quatre pattes et ils marchent sur eux. Voilà, pour arriver jusqu'à son pupitre. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec la Bible? Ils ne lisent pas la Bible, les frères. Qu'est-ce qu'ils font? Certains ont un jet privé, hein. Et quand ils sortent du jet privé, il y a un tapis rouge comme cela. L'être humain est idolâtre, vous voyez. Il se trompe de direction. Et puis il y a aussi, alors peut-être que j'extrapole un peu, certains chrétiens qui suivent des hommes politiques. Ils croient tellement en eux, dans certains pays, ils s'affichent avec eux. Ils sont à la télé avec eux. Mais vous imaginez, mais qu'est-ce qu'ils font? Si demain cet homme politique fait n'importe quoi, mais on va vous identifier à ça. Toujours cette envie de suivre, vous voyez, d'idolâtrer un être humain, ça vient de là. Comment on peut s'afficher avec un être humain de cette façon? Pour maintenir cette unité, nous devons veiller à ce que le message ne soit pas noyé dans l'intelligence humaine. Et ça sera notre prochain point. Et ça sera le dernier point. Le quatrième pilier de l'unité, c'est le pilier de la puissance de l'évangile simple. De la simplicité de l'évangile. L'évangile est simple, très simple. N'allons pas avec notre philosophie humaine compliquée, mais un message aussi simple. C'est ce que Paul est en train de dire. Car Christ, au verset 17, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. C'est-à-dire sans la philosophie humaine. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il prêche l'évangile simplement. Il avertit que la sagesse du langage peut rendre la croix vide. Vide de puissance. Ah! Quand on touche à l'évangile, ce n'est plus l'évangile. Si nous voulons évangéliser et que nous n'utilisons pas, comment dire cela, le message biblique, et que nous agitons quelque chose pour que ce soit meilleur, ce n'est plus l'évangile. On est en train de dire au Seigneur Jésus-Christ, ce que tu as fait n'est pas suffisant. Moi, j'ai une technique, tu vas voir. L'évangile est simple. On n'attire pas les gens avec une ambiance, avec une façon de faire. Non, on prêche juste l'évangile. L'évangile est très simple. Dieu a envoyé son Fils. Tu es un pécheur, tu es perdu, tu vas en enfer. Faut le dire, hein? On arrive à un point où même dire enfer, on a peur. Hein? Parce qu'on se dit que ça risque d'être un peu trop brutal. Non, il va en enfer. Il va en enfer, mais s'il croit en Christ, s'il met sa confiance dans ce que Christ a fait sur la croix, le sacrifice de Christ, s'il croit vraiment que Christ est mort sur la croix pour enlever, ôter son péché devant l'Éternel, devant Dieu le Père, eh bien, s'il met sa confiance en lui, il a la vie éternelle. Si tu crois cela, tu as la vie éternelle. Et là, les gens me disent, ah, mais là, c'est trop simple. Eh bien, mais fais-le alors. Si c'est simple. Sauf qu'ils ont du mal à le faire. Peut-être que c'est trop simple. En tout cas, c'est cette simplicité que Dieu veut qu'on annonce. N'allons pas utiliser des choses compliquées. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 23 à 24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. Vous avez remarqué, quand vous évangélisez, les gens vous prennent pour Voilà, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Tu crois vraiment ça, toi? Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Si quelqu'un intègre l'assemblée par autre chose que par cet évangile simple de la parole de Dieu, ce n'est pas un chrétien qui est venu là. C'est un futur problème. Si nous intégrons dans notre église quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile, la simplicité de cet évangile, qui est venu par autre chose, parce qu'on a dit, je ne sais pas trop quoi on a pu dire à cette personne, on n'a pas affaire à un chrétien. C'est un futur problème dans l'église. Respectons la simplicité de l'évangile. L'évangile est comme un diamant pur. Si vous l'emballez dans trop de couches de papier cadeau, c'est-à-dire l'éloquence humaine, les gens vont admirer l'emballage, mais ne verront jamais la pierre. L'objectif, c'est qu'ils voient la pierre. La croix n'a pas besoin de décoration pour transformer une vie. La croix, c'est la croix. La croix de Jésus-Christ. Ne cherchons pas des prédicateurs qui vont flatter notre intelligence. Recherchons des prédicateurs qui exaltent l'œuvre de Christ sur la croix. C'est incomparable, ça ne ressemble à rien. La croix pure, la souffrance de notre Seigneur qui n'avait pas à vivre ce qu'il a vécu pour nous sauver. C'est ça le message. Une foi qui est fondée sur l'éloquence ou le style d'un homme tombera, tôt ou tard, tombera. Mais la foi qui est fondée sur la puissance de la croix tiendra jusqu'au retour de Christ. C'est ceux qui sont sauvés qui tiennent jusqu'au bout. Hein. Ah, ils vont tomber, c'est sûr, ils se relèvent toujours. Mais c'est ça la persévérance. Ce n'est pas de jamais tomber. Alors j'ai bientôt fini, frères et sœurs. Le message de ce matin, c'est que Dieu nous appelle à vivre sérieusement notre appel à l'unité. Soyons unis, les frères et sœurs. Et puis une église qui est unie, c'est tellement beau. Oh là là. Tu as un problème? Qu'est-ce que tu as comme problème? Ok. Si je peux y aller, j'y vais. Si je ne peux pas y aller, j'appelle le frère. Ok. Oui, la sœur a tel problème. Ok. Qui peut y aller? Mais c'est ça, une famille. Si on n'est pas ça, on n'est pas une famille. Hein. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Hein. On doit pouvoir s'entraider. Le frère a une fille qui a un problème en mathématiques. Qui est bon en mathématiques dans la salle? Bon, je ne vois pas beaucoup de gens lever la main là. Ne comptez pas sur moi pour ça. Hein. Voilà. Mais c'est ça. Et alors, celui qui est bon, il va aider la petite sœur. C'est ça que le Seigneur veut. Et là, Dieu est glorifié, il est heureux, il est bien, le Seigneur. Il est fier de nous. Alors, laissons-nous réparer par la parole de Dieu cet os qui est déboîté, qu'il faut remettre en place. Rejetons les disputes inutiles. Parce que pendant qu'on se dispute, on ne prend pas le temps pour glorifier le Seigneur, pour servir le Seigneur. Vous savez qu'une dispute entre deux personnes, ça prend de l'énergie, hein. Ça fatigue, hein, les disputes. Hein. C'est fatigant. Hein. Faut sortir de ça. Hein. C'est un piège. Hein. Et ne vidons pas la croix de sa simplicité. Annonçons l'évangile simplement, comme la parole de Dieu nous l'indique. Le Seigneur Jésus-Christ peut revenir à tout moment, frères et sœurs. On le dit depuis 2000 ans. Moi, je n'ai pas envie d'être surpris. Hein. Quand on marche avec le Seigneur, on ne sera pas surpris. Celui qui marche avec Dieu n'est pas surpris, ne sera pas surpris par le retour du Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous puissions parler d'un même, avoir un même langage. Attention donc à ce que nous disons. Attention à pouvoir penser de la même manière concernant les enseignements bibliques, concernant notre Église. Nous avons une confession de foi. Il est bien que de temps en temps, on puisse la relire, cette confession de foi. Je suis en train de me demander si je vais pas, à mon retour des Antilles, vraiment, à faire une étude sur ça, c'est de revoir chaque point hein, de la confession. Ça peut être très intéressant. Hein. Voilà, c'est bon de se rappeler un petit peu qui nous sommes. C'est important parfois. Hein. Voilà. Hein. Il faut prendre cette confession de foi, la relire et la signer à nouveau. Voilà, pour dire qu'on est d'accord avec ça et qu'on va agir selon cette confession de foi. Frères et sœurs, nous devons rester unis hein, pour que la gloire de Dieu se resplendisse dans cette ville d'Argenteuil. Hein. Alors, je vais vous lire le psaume que tout le monde connaît. Hein, le psaume 133, verset 1, hein, et je vais terminer avec ça. Et ensuite, nous passerons au repas du Seigneur. Voici, ô qu'il est agréable, 133, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Amen.